l'invité du jour.
Il est 7h45, 1918-2018, on célèbre le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale tout au long de cette semaine. On vous donne des rendez-vous depuis le début de la semaine dans nos rendez-vous d'information. D'ailleurs, on salue toutes les communes qui se sont vraiment mobilisées autour de ce projet et de la mission centenaire. Et on voulait parler un petit peu de l'impact de cette guerre 14-18 dans le bassin montluçonnais avec l'historien Guy Gozard. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin, d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette guerre qui a évidemment marqué le pays, mais le bassin montluçonnais particulièrement. Est-ce qu'on peut dire ça déjà en préambule?
Ah oui, tout à fait, parce que Montluçon était avant-guerre une ville industrielle puissante. Au moment de la guerre, donc il y a un arrêt, puisque tout le monde part au front, tous les hommes partent au front, mais la ville de Montluçon étant très loin du front, va être un élément parmi d'autres, avec le Creusot par exemple, de la production massive d'armement, ce qui est une des raisons aussi de la durée de la guerre, puisqu'il fallait hélas produire pour continuer les combats. Donc Montluçon se trouve une ville très très puissante, avec de très nombreuses usines, Saint-Jacques, les Fers Creux, les hauts fourneaux, et avec un nombre considérable d'ouvriers. Au plus, il y a eu à Montluçon 19 000 ouvriers qui travaillaient dans la métal, qui travaillaient pour la guerre.
Ce qui était énorme. Alors vous le disiez, il y a un postulat de départ, c'est que la ville était déjà une ville industrielle. Mais concrètement, comment ça va se passer petit à petit, la participation dense, massive des entreprises locales à l'effort de guerre?
Alors, elles sont sollicitées, elles sont payées, hein, bien entendu, elles ne travaillent pas pour rien. Et il lui faut à la fois trouver le charbon qu'on ira chercher en partie dans les mines autour. Il y avait 5000 mineurs de charbon dans les mines de charbon alentour, Montluçon, jusqu'à Saint-Éloi. Et puis, il faut le minerai de fer qui va venir, etc. Et on va donc mettre en œuvre tout ça avec une main-d'œuvre très importante qui sera formée des hommes, dont un grand nombre seront des soldats ramenés et mobilisés sur place parce que métallurgistes, ouvriers qualifiés, des femmes en grand nombre, notamment dans ce qui était la pyrotechnie, là où on charge, on met la poudre dans les obus, des ados, puisque à l'époque, on quittait l'école très jeune, des Sénégalais, des Chinois, des réfugiés européens, enfin, il y a un monde fou. Montluçon va passer de 38 000 à plus de 60 000 habitants.
En quelques années, vraiment.
Oui, dans les 4 ans de guerre. Hein. Faut imaginer une véritable fourmilière avec d'énormes problèmes de logement, d'énormes problèmes de ravitaillement. Mais c'est une ville super active, quoi. C'est incroyable, avec une production qui laisse rêveur. Hein. Je vous en donne un exemple. On produisait à Montluçon, au plus fort, 5000 obus par jour.
Dans différentes usines. C'est assez énorme, ouais, effectivement.
Oui. À la pyrotechnie, là où on met la poudre dans les obus, on charge, c'est-à-dire qu'on met de la poudre dans les obus, 50 000 obus par jour, de 75, 155, etc. On utilise 170 tonnes d'explosifs par jour. C'est inimaginable.
Hein. Bien sûr.
Et donc, ça fait une production, alors avec beaucoup de travail de la part de ceux qui travaillent, avec beaucoup de risques aussi. Hein, en particulier, à l'usine de chargement, il y a des travailleurs étrangers, il y a des prisonniers, et il y a aussi beaucoup de femmes. J'avais rencontré, il y a longtemps, la fille d'une des jeunes femmes qui travaillait, qui était toute jeune, qui travaillait à l'usine de chargement. Mmh. Et à force de charger, ils échappaient souvent l'obus sur leurs pieds. Elle me racontait que sa mère avait des doigts de pied complètement écrasés.
D'accord.
Et avec la crainte des accidents. L'usine pyrotechnie de Moulins a explosé, elle.
Ouais. Il y a aujourd'hui assez peu de vestiges, finalement, de ces entreprises de l'époque. Est-ce qu'on peut resituer où elles étaient situées et l'importance qu'elles avaient?
Saint-Jacques, c'est en gros, ouais. Carrefour et la zone industrielle. L'usine des hauts fourneaux, c'est de l'autre côté du Cher, donc là où il y a un peu plus loin que les impôts. Là. Mm-hmm. Les fers creux, il reste la cheminée, là, c'est du côté de... au pont des îles.
Mm-hmm. Et puis, cette fameuse cheminée, effectivement, qui est toujours visible
c'est
aujourd'hui.
La dernière qui reste. Et puis, donc, alors, il y avait aussi, disséminé en Ville-Gauzet, plein de petits ateliers, soit appartenant aux grandes entreprises, soit sous-traitants aux grandes entreprises. Donc, une ville industrielle, surtout sur la rive gauche, hein, mais une ville industrielle très, très, très puissante et très, très impressionnante.
Effectivement,
Il y avait Saint-Gobain aussi. Ouais. Saint-Gobain, qui est un peu plus loin que Saint-Jacques. Alors, Saint-Gobain faisait de la chimie. Donc avec des produits nécessaires pour la poudre, je ne peux pas vous expliquer, je ne suis pas technicien. Et aussi faisait des verres, mais alors non plus des verres à vitre, mais des verres spéciaux pour les engins de visée, des canons, etc.
Mmh. Le chiffre intéressant, tous étaient était intéressant, mais celui qui est le plus marquant peut-être, c'est ce passage de 38 000 à 60 000 habitants en 4 ans. C'est une ville qui double, avec, vous le disiez, donc des impacts, évidemment, parce que les infrastructures étaient peut-être pas adaptées à accueillir autant de monde en
absolument,
si peu de temps.
Absolument. On n'avait pas les logements suffisants. On a construit des chalets en bois, des trucs à drillons qui étaient construits un peu partout. Mmh. Partout où on pouvait, on installait comme on pouvait des endroits pour que les gens puissent s'installer avec d'autres, la multiplication des cafés aussi, avec la police d'ailleurs qui y allait souvent, parce qu'il y avait notamment des militaires qui étaient formés toujours au 121e, donc les soldats sortaient le soir, donc il y avait quelques rixes de temps en temps, avec les mômes qui traînaient dans la rue. On a des textes sur les gamins qui traînent dans la rue, parce qu'évidemment le père est au front ou constamment à l'usine, la mère travaille, ils sont livrés eux-mêmes, enfin bon, on avait déjà des phénomènes de bandes de gamins qui faisaient des bêtises.
Bien sûr. Donc l'armement, évidemment, ça c'est très important. Et puis vous le disiez, important pour le développement de tout le bassin, notamment le bassin minier, en lien avec tout ça.
Aussi, où on a remis en route des mines qui ne fonctionnaient plus.
Dans le secteur, notamment.
Voilà, oui, dans les doyers, etc. On a mis en route des mines qui étaient d'ailleurs assez obsolètes. Et celui qui a le plus travaillé sur cette question et qui a laissé des documents très, très importants, dit bien que on vendait tout le charbon possible, y compris le mauvais. Mais pour les usines, il fallait du bon charbon. Par contre, pour les gens, pour se chauffer ou pour cuire les aliments, on vendait du mauvais charbon, plus des pierres que du charbon, disait-il.
Il y a cette partie industrielle, et puis Montluçon est impliqué d'entrée dans cette grande guerre, puisque le 121e régiment est l'un des premiers à partir au front, me semble-t-il.
C'est ça. Il part un des premiers au début d'août, et il part donc par l'avenue de la gare, et le long de l'avenue de la gare, il est soutenu par des gens qui applaudissent, enfin le texte dit « sous les vivats et les fleurs ». Et on dit aussi, enfin j'ai lu aussi, que le sous-préfet, au moment du départ de la guerre, craignait non pas une manifestation pacifiste, alors qu'on est dans une ville de socialistes, dirigée par Paul Constant, qui est meilleur socialiste, qu'elle craignait non pas des manifestations pacifistes contre le départ du régiment, mais au contraire trop d'enthousiasme patriotique, ce qu'il exagérait un peu, je sais pas, mais on a là un phénomène qui évidemment se reproduira pas, les départs du régiment, enfin des soldats successifs en 15, en 16, etc., là il y a plus de vivats, il y a plus de fleurs, là ils savent où ils vont, les pauvres malheureux. Tandis que en 14, il y avait quand même cette idée que on allait sans doute gagner la guerre, et la guerre rapide. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a
la fleur au fusil.
Oui, un peu, peut-être pas exagéré sur
sur le terme.
Oui, un peu. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait mobilisé tous les hommes, y compris les ouvriers dont on avait besoin dans les usines, et qu'on devra, en gros, après 2-3 mois, les ramener, enfin les mobiliser sur place. Ils sont mobilisés sur place, pour faire ce qu'ils savent faire. Et le maire, Paul Constant, est à fond pour la guerre. Il dit, le militarisme allemand a précipité l'Europe dans un conflit sans précédent. Donc pour lui, c'est clair, c'est de la faute des Allemands, et il faut se battre, et il faut battre les Allemands. Et il le dira en 14, en 15, en 16, en 17, en 18. Il est totalement, on dit pour les historiens un peu pédants, clémenciste. C'est-à-dire qu'il est partisan de Clémenceau. La guerre, on gagnera cette guerre.
Il a eu un impact important aussi, Paul Constant. Donc vous le disiez, avec une prise de position assez nette.
Ah oui, il prend position. Alors il fait partie des socialistes pour l'Union Sacrée, mais il restera, lui, parce que certains socialistes, après, le député de Moulin, Brison, lui, défendra des thèses pacifistes, et se battra pour le pacifisme, mais Constant, lui, reste, si j'ose dire, dans ses mêmes idées, pour la guerre, jusqu'au bout. Et il prendra peut-être conscience du drame que ça représentait, quand il fait faire, dans les années 20, le monument aux morts. Si vous connaissez le monument aux morts de Montluçon, le monument aux morts de Montluçon, c'est une femme qui pleure les morts. Et Constant, à ce moment-là, dit, ce qui n'est pas la même façon de s'exprimer, dit, ce qui reste de la guerre, c'est la douleur. La douleur, il le répète 3 fois. Donc là, il y a sans doute une... Enfin, Montluçon a perdu 1010 morts et 72 disparus pour la commune de Montluçon. Ce qui n'est pas énorme par rapport à la population et moins que les communes rurales. La guerre de 14, c'est une guerre de paysans.
Bien sûr, bien sûr. Il y a certains écrits qui font état que l'un des premiers morts au front est Montluçonné, justement. Alors
ça, je ne savais pas, je l'ai lu hier dans la presse.
J'ai vu ça aussi.
Oui, enfin...
C'est invérifiable, de toute façon, c'est compliqué.
C'est sans doute vrai. Oui, on peut le savoir, parce que maintenant, on a tout est ouvert. Hein. On a tout, à la fois sur les soldats, sur ceux qui sont mutinés en 17, sur ceux qui ont été fusillés sans preuve, comme les soldats du bourg de Vingré. Enfin, on a absolument tout, donc on peut le savoir. Mais enfin, là, après, on quitte Montluçon, mais on entre dans quelque chose, enfin, la guerre de 14, enfin, on en parlera peut-être aux îlets lundi soir. Ouais. La guerre de 14, c'est épouvantable. Il y a eu le jour où il y a le plus de morts au début de 14, en août 14, il meurt en une journée 14 000 soldats français. C'est-à-dire la population de Domera plus celle de Désertines. Vous pouvez même rajouter un peu de Lamée si vous voulez. Vous vous rendez compte, en une journée.
Ouais.
Hein, quand je faisais ça en cours, je donnais une autre comparaison. Si vous mettiez les cercueils, vous partez de Montluçon, et les cercueils bout à bout, vous suivez la route centrale Europe Atlantique et vous allez à Guéret.
Avec
les morts d'un jour.
Effectivement, c'est très parlant. Ça permet de se rendre compte, évidemment, de ce conflit. On aurait pu parler aussi de l'accueil des blessés à Montluçon très rapidement, avec Gabriel Robin notamment.
Montluçon ouvrira, en effet, toute une série de centres, la Charité en particulier, une série de centres d'accueil des blessés, avec les soins. Et parmi les infirmières, en effet, l'actrice Gabrielle Robin jouera un rôle pendant un certain nombre de temps, et jouera un rôle d'accueil de ces blessés.
Elle va revenir sur Montluçon, effectivement, voilà. pour donner un coup de main dans cet effort-là. Guy Gozard, j'ajoute que vous serez lundi donc avec aux côtés de Carole Thibault notamment, qui fait une lecture au Théâtre des Îlets, c'est à 20h30, autour des écrits justement autour de cette guerre. Vous interviendrez donc.
Alors, elle m'a demandé d'intervenir au début pour resituer le contexte rapidement, et puis ensuite à l'issue des lectures, pour redonner éventuellement, si le public le souhaite, un certain nombre d'informations sur Montluçon ou sur la guerre en général.
Lundi 20h30 au CDN des Îlets, puis j'ajoute qu'il y a également ces expositions à Domera à partir de lundi prochain, et puis également à Saint-Victor, et puis à Montluçon il y a aussi une réception du côté de la salle des congrès de l'hôtel de ville qui va être visible avec les cérémonies de dimanche. Merci Guy Gozard d'être passé à notre micro ce matin pour cet éclairage très intéressant. Il est 7h56 et on est en direct, évidemment.